Bonjour, vous êtes bien sur Radio Campus Amiens et nous sommes au Micmac pour le festival féministe de la boîte sans projet et de Gaz Solidarité. Alors, je suis ici sur le super plateau du Micmac avec Marie qui va alors nous présenter ce super festival.
Bonjour, effectivement, on est les associations Gaz, donc le groupe d'appui et de solidarité et la BSP, la boîte sans projet. On est des associations qui, sur le territoire Picard, en Europe et à l'international, luttent contre les discriminations et contre les inégalités. Et on s'est rassemblés ensemble autour de la thématique du féminisme pour organiser un grand festival permettant des temps de rencontres et d'échanges. Donc avec des temps de formation, des ateliers, des animations, des spectacles, pour pouvoir évoquer le féminisme au travers de toutes les femmes, particulièrement sur les thématiques du sexisme et de la lesbophobie.
D'accord, alors aujourd'hui on en est au deuxième jour, hier il y a une formation, aujourd'hui aussi. Comment se sont déroulées ces formations ?
Alors, on a organisé une première formation effectivement avec l'ouverture du festival hier, qui était le sexisme ordinaire, mécanique, définition pour s'en défendre. Et aujourd'hui, c'était sous le même format, mais au sujet de la lesbophobie. Donc on était 19, je crois, hier, et puis 18 aujourd'hui. C'était pas non mixte, mais en l'occurrence, il n'y avait que des femmes. Ah. Et donc ça a été un formidable moment de rencontre et d'échange avec des femmes qui venaient de partout, de tout âge, de tout horizon, qui étaient sensibilisées, mais pas que, à cette thématique. Et du coup, ça a été des jeux, des rires, des temps informels magnifiques, avec même une petite danse tout à l'heure. Claudia pourra nous en parler. Pour nous rassembler, on a évoqué des thématiques importantes comme la PMA, le sexisme, l'émancipation des femmes, l'avortement, mais aussi des thématiques plus légères. Et c'était vraiment quelque chose de beau.
Une belle journée qui continue alors sur deux jours. Ce soir, donc alors, vous nous présentez un spectacle.
Oui, tout à fait. Donc ce soir, sur la thématique de la lesbophobie, dans la continuité de la formation qu'il y a aujourd'hui, on accueille une artiste qui vient de la Drôme, qui s'appelle Amé, avec un spectacle « On m'appelle Monsieur », donc qui traite des problématiques, enfin de l'actualité, et puis du genre, et aussi des problématiques autour de justement la lesbophobie, entre autres. Et du coup, autour de ce spectacle qui commence à 20h, qui s'est entré à prix libre, on a des animations, notamment avec Claudia de Pas à Passo, au travers du Théâtre de l'Opprimé, qui va nous parler un peu de tout ça. Et Stéphanie Arc, qui est une journaliste et une auteure parisienne, qui va nous parler des stéréotypes par rapport à l'identité lesbienne.
Et au livre qu'elle a écrit.
Voilà, tout à fait. Le livre qu'elle a écrit pour démonter les stéréotypes sur les lesbiennes.
Alors, tout à l'heure, on va recevoir Amé au micro à ta place et Stéphanie un peu plus tard. Demain, quel programme avez-vous prévu ? Bon, le soir, on aura compris qu'il y aura encore un nouveau spectacle.
Oui, tout à fait. Donc, c'est le même format. C'est de 18h à 20h des temps d'animation, d'échange avec restauration, bar et puis des temps de rencontre. Et puis, à partir de 20h, le spectacle donc avec Audrey Vernon, qui cette fois est aussi un one-woman show du même format qu'Amé, mais qui va plus parler du sexisme et de l'anticapitalisme. Donc, avec beaucoup d'humour, avec des thématiques de sa vie de femme et avec, du coup, de 18h à 20h, notamment la présence de la ZAD Vengeur pardon, et leur chant féministe.
D'accord. Non, c'est pas grave, c'était pas facile à dire.
Effectivement, je me suis pas entraînée sur la ZAD Vengeur.
Et dans la journée de demain ?
Eh bien, ça commence à 18h.
Ah, d'accord. Voilà. On commence deux premiers jours intensifs et après.
Voilà, c'est ça, avec deux soirées en fait. On a fait deux jours de formation et puis deux soirées.
Comment est né cet échange entre les deux associations ?
Alors du coup, ça fait de longues années que la boîte sans projet et le Gaz Solidarité s'associent, sont partenaires, particulièrement donc effectivement sur la lutte contre les discriminations, sur des interventions au lycée, le racisme, le sexisme, l'homophobie, ça fait de longues années. Et puis là, du coup, comme la BSP a un chantier, ils appellent ça chantier, sur le féminisme, le sexisme et notamment toutes les formes de famille, et que au sein du GAS, on a un chantier autour des LGBT-phobies, donc en fait, tous les propos des discriminations envers les LGBTQI, donc c'est-à-dire lesbiennes, gays, bi, trans, cuir, intersexes et plus. Du coup, on s'est associés en disant, mais l'actualité locale et internationale, donc que ce soit par rapport à l'affaire Baupin, à la Tchétchénie, ou alors au sexisme ordinaire, ou alors des propos de discrimination vers les homosexuels, les transsexuels, il faut qu'on fasse quelque chose. On est un grand nombre de femmes, mais aussi d'hommes, mais à se dire, il faut qu'on agisse dans ce sens, par un temps festif, et c'est pour ça aujourd'hui qu'on est là.
Eh ben, c'est un beau projet, une première édition.
Oui, une première édition, et on espère qu'il y en aura d'autres.
Toi, quelle est ton implication et ton rôle en fait dans ce projet ?
Eh ben, chez GAS, en fait, je travaille autour de la communication, de l'animation et aussi de la formation. Et du coup, je fais partie de l'équipe d'organisation et je me suis occupée de tout ce qui était la communication autour de cet événement.
D'accord. Belle communication. On a pu voir les flyers un petit peu partout. Si vous avez loupé l'événement, Radio Campus Amiens vous le rappelle.
Absolument.
On va se passer un petit extrait de « On m'appelle Madame » d'Amé.
On m'appelle Monsieur.
On m'appelle Monsieur. C'était le lapsus.
T'es une fille ou un garçon ?
Quand même, c'est que ce genre de gars ne drague pas. Excusez-moi de vous déranger. Vous êtes peut-être vieille. Un papa, une maman, on ne ment pas aux enfants. Apparemment, je voudrais dire des gens que ces gens-là, ils sont possédés par le diable satanique, hein, je veux dire. Ah, mais comment vous faites pour... Qui termine en santé. Bonjour. Bonsoir, Xavier. Ressenti par rapport à tout ça. Non, mais parce que vous pouvez pas, il n'y a pas de... Hein? Ah bah, une journée, c'est moi qui porte le bain-ceinture, elle qui fait la vaisselle. C'est pas du tout vécu sur des connards. Je sais ce que vous vous dites, mais allez. As-tu déjà réellement connu un échec en matière de séduction?
Nobody can beat vibration of a thousand moments. Ooh, ma que va, ma que va, ma que bella. Girl, I got a ooh, ma que va, makes my body dance for ya. Ooh, ma que va, ma que va, ma que bella.
C'était Makeba de Jane. Nous sommes toujours dans l'émission spéciale sur le festival féministe qui se trouve au Micmac en ce moment. Alors Claudia, bonjour.
Bonjour.
Tu fais partie de l'association Pas à Passo, c'est ça?
Oui.
Et alors...
Qu'est-ce que c'est?
Qu'est-ce que c'est? Ouais. Voilà.
Ok.
Je vous ai déjà reçu lors d'une émission à la radio, mais c'était ton collègue, donc je te laisse... me présenter cette association.
Ah, bien sûr, c'était super la première fois que je parlais dans l'émission. Ouais. Et c'est un plaisir d'être ici aujourd'hui et pour parler encore une fois. Bon, Pas à Pas au Théâtre de l'Opprimé, c'est une association qui elle existe à 5 ans ici à Amiens et elle bosse par rapport à une méthodologie bien spécifique qui s'appelle le Théâtre de l'Opprimé. C'est une méthodologie qui est développée au Brésil, mais un peu partout. Et aussi, elle existe à peu près dans 60 pays différents.
Ouais.
Et c'est pour lutter contre la oppression du quotidien.
D'accord. Donc alors, vous faites, vous, des événements tout au long de l'année avec ce théâtre?
Oui, on fait pas mal d'événements parce qu'on bosse avec beaucoup de groupes populaires différents. Donc, on a un groupe de femmes, on a des élèves dans l'université et on fait des spectacles un peu dans l'Aire Lagrange, on fait des spectacles dans l'université Jules Verne, un peu partout.
Au Brésil également, d'où ton accent, je suppose, tu es brésilienne.
Je suis brésilienne, je viens de Rio de Janeiro. Et on fait aussi des choses au Brésil, parce que Pas à Pas a un côté international. On a un projet qui s'appelle Together, c'est un projet avec 7 pays différents. Et on bosse en Italie, Espagne, Berlin, Portugal, et partout un peu.
Un petit peu partout, mais toujours... toujours avec la même trame du théâtre de l'opprimé.
Toujours la méthodologie, c'est à base. Mais le sujet vient de chaque groupe qu'on rencontre. Et on parle de sexisme, on parle de lesbophobie, on parle aussi de lutte contre le capitalisme. Le sujet vient du groupe.
Vient du groupe et de l'expression de chacun.
L'expression de chacun, parce que à propos du théâtre de l'opprimé, et aujourd'hui on bosse aussi par rapport à l'esthétique de l'opprimé, que c'est possible de faire toutes les choses qu'on veut. Parce que c'est possible de prendre, de chanter, de faire du théâtre et de la musique, parce que ça c'est un droit humain.
Oui, un droit que l'on a.
Oui, et c'est un langage qui a besoin de s'y approprier. Toujours on écoute que c'est quelqu'un qui est professionnel, qui fait du théâtre, qui fait la musique. Mais par contre, on chante des petits, on fait des dessins. Oui. Ça, on connaît. Et on a besoin juste de stimuler les gens de faire ça.
Donc vous êtes le stimulateur du public.
Oui, on partage sa méthodologie.
qui fonctionne très bien.
Qui fonctionne très bien. Elle existe, comme je dis, à peu près 70 pays différents. Et elle est simple, parce que tu as besoin juste de toi, de ton corps, de ce contexte social, de ta histoire, pour faire du théâtre, pour raconter quelque chose que tu voulais raconter.
Vous faites aussi alors partie du réseau des Madeleines.
Ouais.
Alors, tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce réseau?
Le réseau Madeleine, c'est un réseau qui a été créé juste parce qu'on discutait par rapport à l'oppression qui est subie les personnes qui sont socialisées comme femmes. Et on trouvait des points communs entre les femmes et ont besoin de parler de ça. Donc, on fait un espace non mixte pour femmes parler de leur oppression. Quelle est la place des femmes aujourd'hui, des dons de pouvoir, des dons de la société? On s'est posé pas mal de questions. Et on voulait utiliser aussi le théâtre de l'opprimé pour parler de ça. Et la réseau Madeleine, elle existe aussi à peu près maintenant 10 pays différents. Et c'est un réseau féministe des théâtres de l'opprimé.
Alors, si on veut participer à vos ateliers, à vos groupes, comment ça se passe en fait?
Oui, on a une page sur Facebook, Passe à Passe au Théâtre de l'Opprimé. On écrit là, on a des groupes partout. Et c'est possible aussi de faire ce qu'on appelle de multiplication, d'y aller en village différent pour partager cette expérience.
D'accord. Ok.
Je voulais dire juste une dernière chose. C'est qu'ici, il y a bien en novembre, on va faire une rencontre Madeleine. Ouais. On appelle aussi du laboratoire pour partager la méthodologie et aussi pour faire venir un groupe Madeleine de Berlin qui se pose la question maintenant qui s'appelle « Non, c'est non ». Que ça va dire le nom des femmes.
D'accord. Eh bien, un beau projet. D'autres petits projets qui arrivent très prochainement?
On a grands projets. On y
toujours.
On y va en septembre, nos festivals Madeleine International. Là, va venir femmes d'Amérique latine, Europe et Afrique pour partager l'expérience artistique et aussi politique et poser de nouvelles questions. Toujours, on se pose des questions et on cherche alternatives collective pour dépasser cette question, parce qu'on lutte vraiment pour changer les choses.
Eh bien, merci Claudia.
De rien.
On va passer à un extrait de spectacle d'Audrey Vernon, Comment épouser un milliardaire. Alors, Marie, tu vas nous en dire un petit peu plus, sur ce spectacle qui va avoir lieu samedi à 17h avec... à 20h, samedi 17 à 20h. C'est ça, oui.
C'est ça, 17 à 20h. Oui. Alors, on a la chance d'accueillir également Audrey Vernon, qui est effectivement une comédienne qui a écrit un one-woman show qui s'appelle donc Comment épouser un milliardaire et qui traite des questions de sexisme et de capitalisme, d'anticapitalisme. Elle est aussi chroniqueuse sur France Inter autour de ces questions d'anticapitalisme, puisqu'à la base, elle était cheminote. Et du coup engagée dans les questions syndicales, notamment autour des femmes.
Julien, tu nous envoies ce petit extrait, s'il te plaît.
C'est là que j'ai commencé à fantasmer sur les PDG du CAC 40 et que je me suis décidée à en épouser un. Parce que finalement, footballeur, c'est juste quelqu'un qui vit de son travail. Zidane, c'est lui qui marque les buts. C'est pas un petit chinois qui court à sa place. Alors que PDG, sa vie du travail des autres, des bénéfices, des dividendes, et puis c'est un métier honnête. Tu fais travailler les gens, c'est sympa, ça leur fait des petits sous. Et puis toi, derrière, tu fais ta marge. De toute façon, je réfléchis. Soit tu travailles pour eux, soit tu achètes leurs produits. Alors autant se marier avec. Entre nous... J'en ai longtemps pensé pour Bernard. Arnaud, 4e sur 7 milliards. C'est lui qui possède Dior, Vuitton, Sephora. Pensez à lui le matin quand vous vous parfumez. Ça lui fait des petits sous. Pour vous donner un ordre d'idée, l'année dernière, sa fortune s'est accrue de 13 milliards. C'est comme s'il avait mangé Mark Zuckerberg, le PDG de Facebook. À titre de comparaison, un grand acteur qui fait un film, il touche 1 million. Eh ben Bernard, il a 3 millions de salaires par an, mais ça c'est rien. 3,5 millions d'actions gratuites, mais ça c'est rien. et 325 millions d'euros de dividendes pour une année. C'est comme si gagner deux fois dans l'année à l'euro million avec les 5 numéros et 2 étoiles. On va apprendre à gérer une telle somme psychologiquement. Moi, j'ai gagné une fois l'euro million. 9,75 €. Je grappille. Non, et puis Bernard, son argent, il ne peut pas le dépenser parce qu'il se le redonne à lui-même. Carrefour, il se redonne. Le Bon Marché, il se redonne. Dior, Vuitton, Sephora, chaque week-end, il se redonne. C'est un cercle vicieux, il ne peut pas s'en débarrasser. Du coup, faut pas faire un Monopoly avec lui. Chez moi.
C'était l'extrait de Comment épouser un milliardaire d'Audrey Vermont que vous pouvez retrouver donc samedi 17 demain à 20h au Micmac avec une entrée à 10 €. On se refait une petite pause musicale avec Don't Quame Fight de Alabama Shake. toujours sur Radio Campus Amiens au 87.7 FM et je suis toujours avec tous mes invités sur le festival féministe au Micmac. Alors, vous avez pu entendre tout à l'heure un petit extrait du spectacle Amé avec mon super lapsus, mais le spectacle est bien Comment on m'appelle monsieur, c'est ça?
C'est ça.
Amé, bonjour.
Bonjour.
Comment vas-tu?
Ça va.
Pas trop stressé, quelques heures de ce spectacle devant le
track,
super...
Mais ça va.
Le public amiénois, j'espère qu'il va être réactif.
Bah ouais, j'espère aussi. Ouais.
Alors, un one-woman show que tu as commencé à écrire en 2014.
C'est ça.
Qu'est-ce qui t'a... Quelle est l'impulsion que tu as eue dans ce... Pourquoi écrire un spectacle?
Bah, j'avais toujours eu envie d'écrire un spectacle, je ne savais pas sur quoi. Et finalement, c'est parti de rien du tout, d'une coupe de cheveux. J'ai eu les cheveux courts.
D'accord.
D'un coup. Et là, à partir de ce moment-là, on m'a appelé monsieur. On continue de le faire encore aujourd'hui. Et du coup, j'avais enfin un sujet à écrire.
Mettre,
ouais, ouais, voilà. Donc, ça parle des stéréotypes de genre et aussi de l'homosexualité, de l'homophobie. Au quotidien, quoi, dans ma vie de tous les jours.
Dans ta vie de tous les jours. C'est et ça. Tu as décidé de garder les cheveux courts?
Oui, c'est ce que je préfère.
Voilà. C'est plus pratique?
C'est plus pratique, ouais. Je préfère, ouais. Et ça me va mieux, je pense, que les cheveux longs.
Bah, je ne te connais pas les
cheveux
longs.
C'est vrai que ça te va très très bien, mais merci.
Alors, donc spectacle écrit en 2014, qui est finalement ce que tu as pu vivre au fur et à mesure de...
Voilà.
Des relations, des gens que tu as pu rencontrer, de comment on t'appelait?
Voilà, des expériences. Je parle aussi de la manif pour tous. Je parle de la société en général, ce qu'il y a de plus stupide pour moi dans la société, en parlant de certaines lois qui existent encore aujourd'hui. Et aussi sur les relations sociales, les relations amoureuses. Pour aussi essayer de montrer que peu importe ton orientation sexuelle ou ton genre, les relations amoureuses se passent comme tout le monde.
Oui, il n'y a pas de...
Il n'y a pas de différence, en fait, entre les relations homosexuelles ou les relations hétérosexuelles.
Donc, des thèmes qui te sont propres, une histoire que tu as écrite intégralement seule.
C'est ça.
Tu as eu un petit peu d'aide sur cette...
Non, toute seule. Après, je me suis aussi inspirée de recherches sur Internet,
ouais.
Du petit journal, notamment... de la manif pour tous, de Civitas, etc. Mais c'est mon expérience personnelle ou celle de personnes qui me sont proches et voilà, pour qui j'avais envie de partager leur expérience. Je parle en mon nom tout le temps, mais,
oui. Mais c'est pas forcément toujours toi.
C'est majoritairement moi, mais il y a quelques petites histoires que je pioche à droite à gauche chez les copains et les copines.
Qui se reconnaissent?
Voilà, oui. Et pour leur donner une petite voix aussi... dans ce spectacle.
Tu n'as pas fait de formation théâtrale, non. À part au lycée, tu me disais tout
collège,
à l'heure.
Collège-lycée, ouais, mais c'est rien de... C'était pas une formation, quoi. C'était un club théâtre et j'ai pas poursuivi une formation plus tard parce qu'il fallait que je travaille tout de suite.
Ouais.
Et mais voilà. Après, je me suis dit, bah tiens, je peux...
Allez, je peux... vas-y.
Ouais, voilà. J'avais rien d'autre à faire, en fait.
D'accord.
Du coup, je me suis dit, bah, je vais écrire un spectacle.
Et puis, il faut dire que tu as un talent inné pour la comédie, quand même. Quand on te connaît personnellement, tu nous fais déjà rire au quotidien. Du coup, ça me semble assez logique.
Ok.
Sympa.
Je ne me suis pas plantée.
Non. C'est déjà non.
Merci. Merci.
Alors, un texte que tu as... je t'ai demandé tout à l'heure si c'était de l'impro, mais non, pas du tout.
Non. Non. Quand je l'ai écrit, j'ai fait de l'impro. Ouais. C'est comme ça que je l'ai écrit. Mais non, il est écrit, il est appris par cœur. Et
il est dit...
Il a interprété... de manière différente à chaque fois, c'est ça que j'adore avec le fait de faire un one woman show, c'est que c'est mon texte, je peux le changer, je peux improviser aussi.
Tu peux le transformer.
Ouais.
Avec interaction avec le public.
Parfois.
Ouais.
Parfois voulu, parfois non voulu, ça arrive, mais à chaque fois c'est une très bonne expérience.
Ce n'est pas la première fois que tu le montres en public. Tu me disais tout à l'heure que tu as eu des fois des grandes salles de 150 personnes.
Au théâtre.
Au théâtre.
Ouais.
Comment un grand public réagit? Ça dépend de la ville, je suppose.
Ça dépend de la ville. Et puis, je préfère toujours jouer devant un grand public parce que les gens sont emmenés par les rires des autres aussi. Et devant un petit public, tout le monde ne rigole pas forcément à gorge déployée, même s'il trouve ça drôle. Et sauf que moi, je trouve ça très important de recevoir les rires aussi et de jouer avec ça. C'est pour ça que je préfère jouer dans les grandes salles et comme le Micmac, là où il va y avoir, j'espère, du monde ce soir.
Eh ben, j'espère pour toi. Alors, ton spectacle est diffusé par un diffuseur.
Oui, Socket Production.
Voilà.
Socket Prod, qui a été créé il y a très très peu de temps. Par une amie à moi qui diffuse des spectacles donc, comme le mien et d'autres artistes aussi et également des musiciens, des DJ et voilà.
On peut te retrouver sur un réseau social, sur un Facebook.
J'ai une page Facebook qui s'appelle Amé, qui n'est pas encore très alimentée en ce moment parce que je commence juste et ça est en train de se mettre en place. Mais sinon, on peut voir des choses sur mon spectacle sur le site de Socket Production. Donc Socket Prod, Wix, c'est un site internet voilà, qui promouvoit un peu tous les artistes qui diffusent.
Alors, donc toi, c'est ce soir, une entrée en prêt libre.
Oui.
À 20h aussi.
C'est ça.
Environ une heure de spectacle.
Environ, selon si les gens rigolent ou pas.
Ou pas.
Voilà. Sinon, donc, ça sera plus court. Hein. On abrégera. Hein. C'est pas grave.
Il faut rigoler.
Oui, c'est ça. Si vous voulez que ça continue, il faut rigoler très fort.
Avec des petits rappels, tu as des petits.
Je bosse sur
tu
un
bosses,
rappel.
Ouais.
J'en ai pas encore. Mais ça va venir. J'aimerais bien reprendre un passage du spectacle et l'approfondir un peu plus, qui parle notamment des camps. Enfin, des camps. Des structures pour guérir l'homosexualité qui existent un peu partout, dont on ne parle pas, mais qui existent. En France aussi, je pense. Et donc j'aimerais approfondir un peu plus ce sujet-là parce que je le survole vraiment pendant le spectacle, mais c'est quelque chose qui me...
Qui te tient à cœur ?
Ouais. Ouais.
Alors, si on te rate aujourd'hui, on peut te retrouver dans
demain.
Ta ville natale ?
Lille, oui, ouais, c'est ça. Demain à 18h au Café Citoyen, qui est un café associatif et qui vient de terminer un petit festival de 15 jours sur le féminisme. Et du coup, je joue dans cette prolongation de festival.
Le festival.
Voilà.
Marie,
oui.
Pourquoi avoir choisi Amé ?
Parce que ça rentrait complètement dans la thématique du festival, parce que du coup, quand on a pensé un festival féministe, on a pensé à toutes les femmes, et particulièrement au sexisme et la lesbophobie, parce que du coup, ça correspondait à nos projets, à nos luttes. Et effectivement, on connaissait déjà Amé, on avait déjà vu son spectacle, on avait beaucoup, beaucoup ri. Et du coup, comme ça parlait du genre, comme Amé vient de le dire, de l'actualité, en fait, ça collait complètement avec de où on était parti pour faire ce festival. Et c'était une joie de la retrouver ici à Amiens, donc surtout au Micmac, surtout avec son format et dans les thématiques qu'on représente en fait.
Il reste encore de la place ?
Oui, tout à fait. On a fait un système de réservation par mail depuis qu'on a lancé la communication. Mmh. Il nous reste encore de la place. Donc, pour répondre aux gens qui nous disent depuis quelques jours « Oh là là, j'ai pas réservé, je peux pas venir », si, venez, n'hésitez pas. On serait heureuse de recevoir le plus grand nombre ce soir.
Le plus grand nombre de spectateurs pour Amé.
Absolument.
Bon, bah, merci mesdemoiselles.
Dans le dos, je perds mes moyens, j'ai plus de mots. Quand dans ce grand bain, ce bain de foule, je sens soudain que je coule. Je retiens mon souffle, je me retiens. J'y peux rien, c'est physique. J'ai des goulines, le cœur qui cogne dans ma poitrine. Quand dans ce trou coup, ce trou noir de monde, je sens tout à coup que je tombe. Je retiens mon souffle, je me retiens. J'ai plus rien, c'est physique. Comme un choc électrique. Je te vois, je panique. Je surchauffe, je reste droite, je deviens gauche. Quand je fais mon chariot en arrière-plan, à bout de nage, je serre les dents et je retiens mon souffle, je le retiens. J'ai plus rien, c'est physique. Comme un choc électrique. Je te vois, je panique. Je panique. Je panique. Je panique.
C'était Panique de Junior. Alors maintenant, on va passer à la présentation des ateliers d'écriture avec Zep. Et pour cela, je vais vous passer la petite interview qu'on a fait hier avec Célia. Bonjour Célia, alors tu es ici pour nous faire la petite présentation de l'atelier de lecture et d'écriture que tu as pu réaliser avec les jeunes pour le journal Zep.
Oui, tout à fait. Alors, je peux pas être avec vous ce soir, mais c'est un plaisir pour moi de vous en dire quelques mots. Et je sais que les filles rendront largement honneur à cet atelier. C'est d'ailleurs un plaisir de les rencontrer et d'animer ces ateliers d'écriture avec elles. Alors, ZEP, en fait, ça veut dire zone d'expression prioritaire. Et c'est un dispositif média qui accompagne les jeunes dans leurs expressions, donc des jeunes de 15 à 28 ans qui sont accompagnés par différents journalistes professionnels. Donc là, j'ai conduit un atelier à Amiens en partenariat avec la boîte Sans Projet et Gaz Solidarité. Et l'idée, c'est vraiment de pouvoir donner la parole aux jeunes dans tous leurs états, quels qu'ils soient, quel que soit leur milieu social, qu'ils travaillent, qu'ils ne travaillent pas. Peu importe ce qu'ils ont à dire, il n'y a pas de tabou, la parole est libre. Et l'idée, c'est vraiment de pouvoir leur ouvrir une fenêtre d'expression et leur permettre de raconter, d'écrire, témoigner en partant de leur vie, de leur quotidien, pour qu'ils partagent des expériences sur des sujets dont ils sont acteurs, témoins, que ce soit des rêves, des colères, des choses qui vont pas, des choses qui vont bien, des choses qui les a marqués, qui font qu'ils sont aussi qui sont aujourd'hui. Donc l'idée, c'est de les accompagner. On s'est vus trois fois, 2h30, 3h, pour que chacun puisse coucher sur le papier ce qu'ils avaient à dire. Donc c'est aussi l'occasion d'échange, parce que c'est pas chacun dans son coin. Il y a d'abord un petit tour de table, de présentation, où chacun explique qui il est, ce qui le marque, ce qui l'interpelle dans la vie, et puis d'échange en échange, un peu sous la forme d'une conférence de rédaction, peut-être un peu plus personnelle, les sujets se dessinent dans la tête de chacun, et après on y va.
D'échange, de partage et d'écriture.
Échange, partage et écriture, et on va poursuivre ça ce soir avec les filles qui justement vont lire les textes qui sont nés de cet atelier. Et en fait, pour les gens qui nous écoutent, la ZEP, c'est consultable partout. C'est un site internet avant tout, donc www.la-zep.fr, et vous allez pouvoir découvrir tout ce qui est mis en ligne. Nous, on a fait des articles, mais finalement, ça peut prendre n'importe quelle forme. Ça peut être finalement, donc bien sûr, des textes, des photos, des vidéos, du son, de la BD. Il y a de la place pour tout le monde. Et il y a un bon vivier, une bonne base de textes qui font réfléchir, auxquels on peut aussi s'identifier. Et c'est assez chouette d'avoir ce média qui existe pour cette jeunesse-là, en tout cas.
Eh ben, merci, Célia, pour toutes ces petites précisions.
Merci à toi, Marie-Charlotte. À bientôt.
À bientôt. Et voilà, Célia nous a fait cette petite présentation de l'atelier qu'elle animait. Alors, elle a précisé que les filles allaient être super, mais ce sera que toi, Lucille, bonjour.
Bonjour.
À nous présenter tous les textes. Mathilde, est-ce que... Mathilde, c'est l'autre fille qui devait être, ça y est, je m'embrouille. Marie, est-ce que tu as quelque chose de plus à rajouter sur tout ce que nous a déjà raconté Célia ?
Oui, effectivement, donc Célia a bien résumé la façon dont les ateliers se sont passés. L'idée, dans le cadre du festival, c'était de pouvoir donner la parole, effectivement, à des jeunes femmes qui avaient envie, ou pas d'ailleurs, mais qui, la plupart, avaient envie de parler de sujets qui étaient importants. Et on était parti dans l'idée que pour pouvoir s'émanciper, il faut d'abord s'émanciper soi-même, et du coup, il y a toute une démarche de quoi j'ai envie de parler, de comment j'ai envie de parler, de moi où j'en suis, comment j'en suis. Ouais. Et du coup, Lucille va pouvoir nous en faire part. Et c'était vraiment une chouette expérience et ça a donné d'autant plus de contenu et de richesse à ce festival.
Alors, Lucille, tu vas commencer. Alors, tu vas nous lire deux textes. Donc, un qui est de toi et un autre qui est de Mathilde. Alors, lequel as-tu choisi de lire en premier ?
Alors, je vais vous lire tout d'abord le texte de Mathilde. Donc, voilà.
Vas-y, on t'écoute.
Oh putain, je crois que je suis lesbienne. Cet électrochoc lucide a fait éclater une sorte de bulle, ou plutôt un abcès purulent. Quelque chose à cheval entre un magma de vitriol haineux et un bouillon âcre, amer de révolte. Puis vint cette vague scélérate de dégoût. Je me sentais marquée au fer rouge, prisonnière de mon propre corps, otage de mes sentiments, noyée dans un océan de perplexité. Perplexité. Ce n'est pas possible. Comment je vais faire avec ça ? La digue de déni que je m'étais bâtie avec soin venait d'être emportée sans autre forme de procès. En l'espace d'un regard, ma vie venait de changer de tout au long. Elle, moitié mahoraise, moitié malgache, sa peau me subjuguait. Lumineuse et iridescente à la lumière du soleil. Elle était éblouissante. Son sourire et son rire m'élevaient à un état proche de la béatitude. Cette matone mulâtresse parlait couramment l'anglais. Pour parfaire le tableau, elle savait chanter et jouer de la guitare. La voix de cette sirène m'envoûtait. J'étais perdue. On ne peut pas être raide dingue de quelqu'un aussi vite. Non, non, non. À moins que... Alors c'est ça, un coup de foudre ? Premier regard, premier émoi. N'est-ce pas romantique ? Premier échange, premier sourire et éclat de rire. Jusque-là, tout va bien. Et puis, le temps file. Tout s'accélère avec nos numéros échangés. Cette passion dévorante n'a plus de limites. Elle est avec moi, constamment, en pensée, en action, en parole, en émotion. En l'espace de quelques semaines, elle est devenue mon centre de gravité. Ma vie ne tourne plus qu'autour d'elle. Oui, mais plus tu l'aimes et plus tu te détestes, ma pauvre fille. Tu es sale, un monstre, tu me débectes, je te hais. Il va falloir l'annoncer ? Comment mettre des mots sur ce mot ? Comment le dire à ma famille et comment vont-ils le prendre ? Et mes amis ? Je fais partie du mouvement rural de la jeunesse chrétienne. C'est une trahison. Ma vie n'est qu'un vaste mensonge. Je vais tout perdre. Stop ! Il faut que ça sorte. D'une manière ou d'une autre, il faut expier ça. Alors, je prends une lame. Pendant de longues minutes, je scrute mon bras, cherchant une réponse à toutes ces questions. Rien ne vient. L'angoisse devient suffocante. Meurtrissant mon âme, un combat titanesque entre deux émotions se livre en moi. Amour, haine, haine, amour. Entre les deux, mon cœur est écartelé. Je me suis scarifiée. Cette chaîne d'émotions s'écoulait en petites rigoles sanguignolantes depuis mon avant-bras. Ne viens pas te plaindre si tu souffres de dans l'aimer. Tu le mérites, c'est ta malédiction et ton fardeau. À travers cette douleur physique, celle psychique s'était tue. Ou peut-être exprimée, un tant soit peu tout au moins. Cet épanchement m'avait emporté une forme étrange de soulagement. Ironie du sort, il fallait désormais soustraire au regard mes meurtrissures. Stigmate, une terrible révélation. Je n'étais pas en mesure d'assumer ce bloc immonde. Une chance, nous étions en hiver. La stratégie des bulles longs était de mise. Le subterfuge fonctionne à merveille pendant un temps. Encore une bonne semaine et les croûtes seront tombées. Détail peu ragoûtant, je vous le concède, mais c'est un excellent mécanisme de défense. En pareil cas, on se raccroche souvent à de petites choses insignifiantes. Au lendemain, devant le foyer de la cheminée, maman découvrait les estafilades. Ce fut terrible. En quelques phrases, il fallait accepter que sa fille se soit scarifiée, qu'elle soit lesbienne, soit, mais surtout que le fruit de son mal-être était dû à son premier amour. Une perverse narcissique, bipolaire et bisexuelle, menteuse et manipulatrice. Elle soufflait le chaud et le froid. Un jour, alimentant un brasier amoureux qui semblait inépuisable, et le suivant, glacial et ineffable. J'étais une sorte de pantin désarticulé et décérébré. Elle seule savait en tirer les ficelles. Maman a beaucoup pleuré. Qu'est-ce que j'ai raté dans ton éducation ? Rien, je ne sais pas non plus. Heureusement, ma sœur jumelle est en tout point hétéro. Une sur deux, c'est déjà pas mal, non ?
C'est pas facile de lire le texte de quelqu'un d'autre.
Non, non.
on t'écoute pour le tien.
Ça marche. On ne lave pas son linge sale en famille. Cette phrase, c'est mon oncle qui l'a dit à ma mère. Ma mère, qui devait supporter les crises de folie de mon père durant mon enfance. Crise qui se traduisait généralement par la destruction de toute la maison. Des gifles, des cris. Mon père qui un jour a même fait voler mon chien dans les escaliers. Alors forcément, ma maman, un jour, elle en a eu marre. Tout explose lors d'un repas de famille. Elle craque, elle pleure, elle raconte tout. Et là, mon oncle se lève. Si nous étions au cinéma, un plan en contre-plongée aurait accentué sa suprématie. À cet instant, il dit « Ah non, pas aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Bidule. Je vous avoue qu'étant enfant, j'ai oublié la date et de qui on fêtait l'anniversaire. » Il rajoute « Puis de toute façon, on ne lave pas son linge sale en famille. » Ma mère est partie dans la chambre pour se remaquiller. J'avais 7 ans et 15 ans plus tard, je réalise que ce moment et cette phrase sont restés gravés dans mon esprit. Ça a marqué un tournant. Comme une évidence, j'ai su ce que je voudrais faire plus tard. Défendre toutes les femmes, toutes les mères, tous les enfants. Défendre ma maman. Les violences conjugales sont un choc à la fois pour les femmes qui les vivent, mais également pour les enfants qui en sont témoins. Ça laisse des traces, des stigmates avec lesquels on doit se construire, devenir adulte. J'ai dû continuer à avancer, grandir. Ce que je n'ai franchement pas eu pendant mon développement personnel, à savoir une réelle place, je l'ai recherché grâce à ma passion du cinéma, de ces films sur la famille ou sur les super, ordinaires héroïnes. Mon prochain scénario de court-métrage mettra peut-être en lumière la première de mes héroïnes, ma mère. Qui sait ? Ma mère, qui après cette phrase lâchée au beau milieu du repas, n'a plus jamais rien confié à sa famille. Elle nous a élevés toutes seules avec mes deux sœurs. Jamais je ne l'ai entendue se plaindre. Je l'admire. Dans son courage, ses faiblesses, ses qualités et ses défauts, elle m'a donné la force de me battre. Et si un jour il me vient la folle idée d'avoir des enfants, je voudrais être une mère comme elle. J'ai grandi. Dans le quartier, les voisins voulaient savoir ce que nous étions devenus. On a longtemps été considérés comme des bêtes de foire. Présidentielle 2012, je vote pour la première fois, et là, on me glisse au bureau de vote. Ah mais, vous êtes les dés du petit Saint-Jean ? Génial, me voilà célèbre. Dommage que ce le soit pour une histoire triste. On a réussi, on a les vies que l'on souhaitait. Pourtant, pendant un moment, je n'ai rien dit. J'étais jeune, j'étais une fille, on me faisait bien comprendre que mon avis n'était pas très intéressant et que ma légitimité à la parole était inexistante. Je n'ai rien dit aussi parce que la famille, c'est sacré. On ne veut pas tout casser. Mais à force de se taire, c'est nous-mêmes, notre morale qui dégénère. Aujourd'hui, ça me fait mal dans le ventre. Bon, il ne faut pas croire que j'ai une haine pour ce mot famille. Pour dire vrai, moi aussi j'aimerais en avoir une à la Beethoven. Oui, oui, ce film culte où le seul non dit dans la cave, dans la maison, c'est que d'énormes chiots sont cachés dans la cave, justement. J'en ai marre d'être dans le peloton de tête des manifs, d'être investie dans diverses causes, mais de me taire en famille. Je ne veux plus me taire. Aujourd'hui, quand j'entends mon oncle se plaindre de son divorce, de ses coucheries, de sa crise de la cinquantaine, j'ai juste envie de me lever et de lui claquer sa phrase vieille de 15 ans. Mais non, je l'écoute. Tolérance, c'est ce grand mot qui m'a permis d'évoluer. J'ai pardonné à mon père, je ne lui en veux pas. Il avait une maladie mentale, il n'était pas toujours lui-même. Ça n'excuse rien, mais ça reste mon père. La seule gifle que j'ai reçue au cours de ma vie venait de lui. Un soir où j'essayais de m'interposer entre lui et ma mère. Un soir où il y avait trop de cris. Aujourd'hui, je me jure qu'aucun autre homme ne lèvera la main sur moi. Qu'échanges, discussions et écoutes rythmeront mon quotidien. Lavons notre linge sale en famille, car cela doit être le foyer de toute émancipation, de toute rébellion, de tout échange. L'espace où l'on doit pouvoir être soi-même.
Merci.
De rien.
Tu l'as lu à ta maman ?
Non, pas encore. Je vais lui lire dimanche.
Pour la fête des pères, cadeau maman.
Voilà.
On arrive un peu quand même en fonction de notre parcours. Moi, je me souviendrai toujours de la fois où ma mère a appris que ma sœur était lesbienne. J'avais l'impression que c'était de ma faute. Parce qu'en fait, je le savais depuis très longtemps et je ne lui avais pas dit. Donc, je me reconnais un petit peu dans...
C'est le genre de secret de famille récurrent, malheureusement.
Tout le monde le savait, sauf elle. Donc, c'était notre faute parce que nous ne lui avons pas dit. Alors que
Et comme quoi, ça touche tous les autres membres de l'entourage aussi.
C'est pas à nous de le dire, c'est à la personne concernée de le dire ou de ne pas le dire. Merci les filles.
Bah, de rien.
On enchaîne avec le livre de Stéphanie Arc, Identité lesbienne, en finir avec les idées reçues aux éditions Le Cavalier Bleu. Stéphanie prend place. Eh oui. Bonjour.
Bonjour, merci beaucoup.
Comment vas-tu ?
Parfaitement bien.
Alors, la couverture du livre dit « Issue de la tradition ou de l'ère du temps, mêlant souvent vrai et faux, les idées reçues sont dans toutes les têtes. L'auteur les prend pour point de départ et apporte ici un éclairage distancié et approfondi sur ce que l'on croit ou croit savoir. » C'est ça ?
Exactement.
Alors, un train passe. Alors, tu as fait des études de philosophie à la Sorbonne.
Oui.
Tu es devenue journaliste.
Oui, je le suis toujours.
Tu l'es toujours et auteur donc de ce livre, mais également tu as été vice-présidente d'une association sur l'homophobie.
Oui, SOS Homophobie, c'était un petit moment déjà, c'était entre 2008 et 2009.
Mais toujours membre actif de ce...
Alors, ça fait un an que là, je suis un petit peu en vacances, après 10 ans de... Enfin, en vacances, disons que j'écris, mais sous d'autres formes, toujours sur les mêmes sujets, mais un peu sous d'autres formes, plus littéraires, j'essaye. Mais pendant 10 ans, j'ai fait partie de l'association activement, et notamment de la commission lesbophobie à laquelle je rends hommage. Donc j'ai été aussi animatrice enfin, de cette commission lesbophobie qui était spécifiquement dédiée au sein de l'association SOS aux questions lesbiennes, lesbophobie, femmes, genre, etc.
Alors aujourd'hui, tu arrives avec un livre, c'est ton premier ou tu en as déjà ? Non, tu en as déjà fait d'autres ?
Tu parles d'identité lesbienne ?
Oui, je parle de ça.
Alors en fait, il s'avère qu'il y a une petite particularité avec ce livre, c'est qu'il est sorti il y a 10 ans, sous une forme poche, en fait, qui était une petite collection au Cavalier Bleu, qui s'appelle la collection Idées Reçues. Et il a été réédité en 2011, donc déjà ça c'était bien, c'était chouette, parce qu'il se vendait plutôt bien en fait, pour un sujet qui n'était pas très traité à ce moment-là, en 2006. Oui. Donc il est ressorti en 2011, toujours en poche, et puis en 2015, mon éditrice m'a dit, écoute, nous faisons des grands formats sur certains sujets, et ton livre, il me plaît, donc c'était chouette, et elle m'a dit, on va le sortir en grand format, tu peux l'augmenter, et puis le mettre à jour, surtout parce qu'un livre, ça vieillit vite. Et entre-temps, il y avait eu l'enquête lesbophobie, deuxième enquête lesbophobie de SOS, donc qui était sortie en 2015, c'est sorti la même année. Du coup, ça m'a permis d'adjoindre des nouveaux chiffres plus récents, puisque la première enquête lesbophobie de SOS était de 2008. Alors évidemment, il y a beaucoup d'autres choses que ces chiffres et cette enquête, mais d'un point de vue culturel aussi, il y avait de nouvelles références sur la visibilité lesbienne, il y avait plein de choses qui étaient sorties entre 2011 et 2015, donc il fallait, je tenais vraiment à ce que ce soit récent et que ça parle aux plus jeunes aussi.
Et qu'il soit mis à jour, entre guillemets.
C'est très important, oui, bien sûr, pour que ce soit. Je l'ai vraiment conçu comme un manuel, une sorte de vade-mecum, en fait, pour se défendre, s'autodéfendre. C'est presque un manuel d'autodéfense féministe et lesbien, pour avoir des arguments quand vous êtes confronté, comme on a pu l'entendre, à des remarques de la part de votre famille ou de vos amis, des idées reçues qui vous agressent. J'ai vraiment essayé d'écrire des choses qui permettaient de comprendre ces idées reçues, de les analyser et puis de pouvoir y répondre. Voilà, c'était une longue réponse.
Alors, différents portraits dans ton ouvrage. Des portraits que tu es allé vers les personnes ou ils sont venus vers toi. Comment as-tu réalisé en fait tous ces portraits de...
Alors, c'est un livre qui recense les idées reçues.
Ouais.
Et effectivement, il y a une partie qui s'appelle Portrait des lesbiennes, une autre partie qui s'intéresse aux origines de l'homosexualité, et une troisième qui est plutôt des questions sociétales, comme la question du nombre d'homosexuels, ou de est-ce qu'il y a plus de lesbiennes que de gays, ou des questions de mariage, ou des questions donc un peu plus sociétales. Mais en effet, la première partie est s'intéresse à une sorte de portrait un peu caricatural qu'on fait souvent des femmes lesbiennes, plutôt masculines, voilà.
Les cheveux courts.
Voilà, c'est ça. Et puis les questions de sexualité aussi. Les lesbiennes, quand elles font l'amour, c'est pas, enfin voilà, il se passe pas grand-chose. Des choses comme ça, plus descriptives, si on veut, bien qu'elles soient normatives. Enfin, et dans le jugement, en vérité, c'est pas que des faits. Mais... Donc voilà, donc le livre est constitué comme ça de 12 idées reçues, je crois, qui sont analysées.
Réparties en trois grands thèmes.
Voilà, exactement, tout à fait.
Oui, c'est beaucoup plus facile quand on a le sommaire sous les yeux, en fait. aujourd'hui, donc livre grand format, est-ce que sa distribution, sa quantité a évolué? Est-ce qu'il est plus acheté qu'avant?
Oui, c'est une bonne question. Je crois que, alors, moi, j'étais vraiment très heureuse quand il est sorti en poche, en premier lieu, parce que c'est vraiment un livre que j'avais pensé pour toucher le plus grand nombre de monde. Enfin, et du coup, il était à moins de 10 euros. Donc ça, c'était vraiment génial. Enfin, j'étais très heureuse. Effectivement, le fait qu'il soit en grand format, il a augmenté puisqu'il est passé à 20. Et du coup, ça paraît assez pragmatique comme ça, de parler d'argent. Mais en fait, en vérité, c'est quand même important parce qu'il y a un prix psychologique, je trouve. Et... Après, voilà, c'est important aussi d'acheter des livres. Donc voilà, et de les vendre. Mais alors, je pense aussi que j'ai aussi fait énormément de communication pendant 10 ans. Enfin, j'ai vraiment
sur l'ouvrage en lui-même,
sur le premier, voilà, le petit. Et du coup, j'ai vraiment participé à de très nombreuses interventions, etc. J'étais très très investie,
très active.
Et puis peut-être que pour le troisième format, j'étais un petit peu moins présente pour le porter. Mais donc, je suis d'autant plus ravie d'être avec vous aujourd'hui.
Bah, nous aussi. On peut donc le retrouver ici, en vente.
Oui, tout à fait. Il est là ce soir.
Il est là ce soir.
On l'a d'ailleurs utilisé aujourd'hui lors de la formation lesbophobie, mécanisme, définition pour s'en défendre, parce qu'effectivement, c'est vraiment un super outil. Du coup, on parle d'outils nous concernant, mais parce qu'il recense parfaitement bien les stéréotypes qu'on a. Et au début de la formation, c'était rigolo parce qu'on a proposé aux gens de décrire comme ça un peu le stéréotype de la lesbienne et on y a tout retrouvé. Et ça a été une super réponse et ça a amené des débats super intéressants et du coup, des réponses, comme tu dis, Stéphanie, pour se défendre de ça et s'émanciper soi-même en étant lesbienne, mais aussi au plus grand nombre. Du coup, c'est un super format.
Et... Tout à fait. Et puis, dans la foulée de ce livre, j'avais voulu vérifier ensuite, après coup, bizarrement, a posteriori, si les gens pensaient, avaient vraiment ces idées en tête. Enfin, je savais qu'elles traînent partout, on les voit dans Gazon Wadi, on les voit partout. Mais du coup, on a fait un petit micro-trottoir qui est visible en ligne aussi. Enfin, je pense qu'il est encore visible. Comment il s'appelait ? Je ne sais plus. Enfin, si vous tapez mon nom puis micro-trottoir, je pense que vous tomberez dessus sur Google. Et en fait, on était deux ou trois et on avait interviewé des gens dans la rue en leur demandant quelles étaient l'image qu'ils avaient des lesbiennes. Et je ne vous dévoile pas les réponses, ça dure un petit quart d'heure, mais c'est intéressant parce que du coup, effectivement, on a retrouvé.
Ouais.
Toutes ces idées reçues, une à une, alors c'était pas aussi rationnel, aussi rigoureux, aussi organisé, évidemment, mais c'était présent, ça informait tous les discours et que les gens les réprouvent d'ailleurs, enfin, qu'ils les invalident, en fait, ou qu'ils les consolident, enfin, d'une certaine manière.
Oui.
C'était très intéressant.
Oui.
Et ben, on peut retrouver donc cette petite vidéo en tapant ton nom, Stéphanie Arc.
Oui, alors là, j'ai un peu l'air bête de ne pas me souvenir du titre.
Non, c'est pas...
sur ton site, on le retrouvera sur ton site.
Oui, il est sur le site aussi, bon. Tout à fait.
Eh bien, on va clôturer cette superbe émission. Merci, Marie, d'avoir été là tout au long, finalement.
C'était un plaisir, merci à toi.
Rien. Donc, c'était cette émission spéciale sur le Festival Féministe. Ça continue donc ce soir à 20h avec le spectacle d'Amé.
Oui.
On m'appelle Monsieur.
Oui, voilà, c'est ça.
Et demain aussi à partir de 18h.
Encore une fois, avec Audrey Vernon à 20h. Et puis donc les deux soirs, que ce soit ce soir ou demain, on aura aussi la suite avec un apéro musical jusqu'à à peu près 23h pour se rencontrer, pour échanger, pour faire un peu la fête.
Avec une buvette et une restauration
sur place.
On
a
un bar et une restauration. Et puis ce soir, il y a une DJ qui s'appelle Pink Moloko qui va venir un peu enflammer la soirée.
Ouh. Merci, bonne soirée.
Merci, bonne soirée.
Au revoir.